Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, bienvenue sur Bretagne 5. La plume est à vous. Une première plume déconfinée ce soir avec ce récit de Manuel Bonneau, « La navale vivra ». Entre souvenirs autobiographiques et histoire sociale, c'est toute l'aventure des chantiers navals de La Rochelle que Manuel Bonneau nous propose de revivre ici, à hauteur d'homme. Un bel hommage rendu à ses combats, à ses luttes et à ceux qui les ont menés. Sous une apparente neutralité de ton, perce une réelle admiration, pudiquement mêlée à l'affection, voire la tendresse du narrateur pour ses personnages. C'est là où réside la force de ce texte, dont les mots choisis et pesés tombent infiniment justes et résonnent avec une grande sincérité. Manuel Bonneau est né en 1971 dans cette même ville de La Rochelle, dont il a su saisir ici le caractère et l'âme. De 1976 à 1992, il poursuit, je le cite, « de vagues études et nourrit quelques dessins, notamment après son baccalauréat Lettres et Arts ». Il s'essaye alors à divers ateliers et cours d'art dramatique, mais je le cite à nouveau, « depuis 1998, il nourrit plus sa famille que ses ambitions ». Même si le démon des arts et de la création n'a jamais cessé de le titiller. Depuis les années 90, en effet, on lui doit des textes destinés à la chanson, des poèmes et quelques nouvelles, tout en pratiquant à partir de 2005 la photographie et le collage numérique sous le pseudonyme de Théo Paul. Son travail sera d'ailleurs prochainement exposé et pour la première fois au Salon Art et Compagnie à Angers. Écoutons, sans plus attendre, la nouvelle qu'il nous propose ce soir, « La navale vivra ». Dos à la ville, face à la mer, petit hôtel particulier. La demeure bourgeoise et conventionnelle n'oublie pas de dire ce qu'elle est. De larges baies percées sur une façade en décalé, yeux ouverts sur l'horizon, derrière des paupières de tulle et de velours, lui donnent un air de vigie. À deux pas du vieux port, posé comme par négligence sur un tertre, au bout de la rue, prolongeant les remparts, elle semble défier l'océan qui s'ébroue en contrebas. Passé l'entrée du chenal, le voyageur qui emprunte désormais le bus de mer, il n'y avait plus de vrais marins depuis longtemps, ne pouvait pas la manquer. Elle tranchait avec les maisons basses, presque sourdes, les fortifications massives, patinées, et les minimes en friche. elle semblait comme un point de départ pour la ville qui s'y adossait avant de se perdre dans des strates populeuses. C'est d'elle que je viens. Ce genre de cité suppose une industrie en rapport. Elle l'avait été. Historiquement, on peut en retrouver des traces. D'abord, axée sur la pêche et la métallurgie, elle avait débuté une mutation profonde qui, à compter des années 70, allait bouleverser l'existence d'un grand nombre de ses habitants. Mais pas les occupants de la villa haute. La vie dans cette demeure semblait obéir à un cycle naturel, régulier, docile. Totalement étrangère aux transformations terribles qui germaient dans le giron de la ville, elle n'en était qu'une excroissance finalement lointaine. Il n'y a qu'à fermer les yeux et on imagine sans peine. L'escalier massif en bois verni, aux marches recouvertes d'un épais tapis, les murs blancs où quelques petits maîtres s'accrochent aux simèzes, les bibelots de prix, les meubles précieux, l'opulence. L'été, le soleil, deux, trois enfants qui cherchent l'ombre, pas de grand jardin, peut-être aucun arbre providentiel. Ça n'a aucune importance. Il y a la mer, l'école de voile, le vent qui fait claquer les drisses, la peau bronzée, quelquefois parcheminée par le sel qu'on goûte sur les lèvres. Peu importe qui habite là, on devine la situation aisée, au minimum la profession libérale ou la bourgeoisie de vieille souche, plus que le snob ou le parvenu. Peut-être n'ont-ils même pas l'arrogance de ceux qui sont nés quelque part, une cuillère d'argent à la bouche. Ils sont d'un autre milieu, d'une autre culture. Contemporains, sans être vraiment du même monde, à l'écart, abrités des tumultes. N'importe qui de sensé aurait pu prévoir pourtant. Il ne fallait pas être économiste. Tout juste devait-on posséder un peu de bon sens. Ce siècle qui couvait n'allait pas amener de nouvelles positives. Un mot terrible apparaissait. Remerciement. Dernier coup de poignard d'une société de plus en plus libérale et ayant oublié jusqu'à la véritable signification de ces mots. Lorsque j'arrivais, il me semble qu'on croyait encore au miracle des Trente Glorieuses. Travailler au chantier, être un des gars de l'Atlantique, ça en imposait. On n'était pas marin, certes, mais schumach, c'est-à-dire chaudronnier, en argot de métier. C'était quelque chose. Et ce nom, pour moi, sonne encore aujourd'hui comme un titre. Mais il ne reste plus que les ombres de ces géants de fer. Ouvre ouvrier des chantiers navals, soudeur de marine. Ah, c'est vrai que ça avait de la gueule. Trois de mes oncles étaient de ceux-là. Je me rappelle encore aujourd'hui les bleus de travail, les cottes que mamie lavait et rapiéçait le mercredi après-midi dans un vacarme de machine à coudre. Le bruit était si fort parfois qu'il couvrait la télévision. Mon frère et moi, alors, ne pouvions plus entendre nos dessins animés. Mamie, bien sûr, continuait, malgré nos plaintes. Je revois la craie de couturière, grasse, rose ou jaune, et le découvite qui faisait comme un harpon de pêche en miniature. Je me rappelle aussi les gamelles qu'elle préparait dans une boîte octogonale émaillée. Je trouvais ça mystérieux qu'un repas puisse tenir dans une aussi petite boîte. Je me souviens encore du car, le matin, qui vers les 6 heures emmenait les ouvriers. La place de l'Île-de-France était dans le noir d'un matin d'hiver. Seuls les candélabres distillaient une lumière chiche et orange. Mamie disait « Tiens, voilà le car des Brissonneaux. » J'ai compris plus tard que ces Brissonneaux étaient les ouvriers d'Alstom qui construisaient les trains et les métros. Mais pour moi, chantiers navals et constructions ferroviaires, c'était au fond la même chose. En famille, je crois que mes oncles avaient le sentiment d'appartenir à une élite. Cette fierté ne me touchait que par ricochet, car papa était le seul à ne pas y travailler. Il avait suivi son père dans les chemins de fer, et j'en parlerai peut-être un jour. Fier, je crois bien qu'il l'était, et c'était juste. En famille, il parlait de leurs collègues, racontait des anecdotes qui faisaient rêver et donnait l'impression de participer à une aventure. Les chantiers, c'était quelque chose sur la région. Et puis surtout, il y avait là comme un mythe. Je revois encore les ateliers écrasants, les grues jaunes, la tôle des bâtiments, le béton, et puis surtout, les cales de radoux couvant les bateaux qui allaient être lancés. Ces jours-là, les familles des ouvriers étaient conviées. Je me rappelle être allé au dernier lancement. Un officiel en écharpe, une marraine, l'armateur, son équipage, la bouteille de champagne qui heurtait le métal nu et gris de la coque, et lentement, si lentement qu'on le croyait d'abord immobile à jamais, le navire s'élançait enfin sous les yeux des métallos tristes et fiers. Ce bateau s'appelait l'Angelim. C'était le milieu des années 1980. Je crois qu'un ouvrier était mort pendant la construction. Une histoire d'explosion, de soudure. Sans doute, les gars avaient-ils organisé une collecte pour sa famille. Peut-être même qu'un match avait été organisé par l'équipe de rugby des chantiers. Deux de mes oncles y jouaient, dans l'équipe du championnat corpo. L'un, grand et vif, à l'aile, l'autre, plus râblé, était talonneur et capitaine. La mer et le rugby à La Rochelle, c'était deux éléments importants. Quoi qu'il en soit, ce drame était annonciateur d'autres. Les premières secousses de cette mise en pièces s'étaient faites ressentir dans les années 60. Pourtant, on y croyait encore. C'était sûrement parce que la mer ne pouvait tourner le dos à la ville. Il y eut bien 68, mais le rêve généreux devait se dissoudre très vite dans la soupe libérale. En 1975-1976, déjà, des manifs défilaient sur le port. Le rituel était précis. Les hommes descendaient du chantier, se rassemblaient, place d'armes, puis, serrés derrière les calicots, s'avançaient vers le port par le quai du Perret. « Les patrons doivent céder !» Opération Ville Morte. Paris Match, qui le crut, titrait « 1200 francs par mois, la vérité de la palisse !» Même Michel Crépeau, le maire, s'était mobilisé. Il y avait les chantiers, bien sûr, mais aussi Keval, Simca, Talbot, Chrysler. Seulement, que peut-on arracher à un patron pour qui vous n'êtes qu'un des maillons d'un groupe qui en compte des milliers et dans des pays différents? Quand ils ont parlé de restructuration, de plans sociaux, les gars se sont bougés derrière les syndicats. Enfin, dans ma mémoire, toujours, je n'en connaissais qu'un, CGT-FO. Il y avait aussi le comité d'entreprise, le CE. Le plus jeune de mes oncles s'en occupait. Dans mon jeune esprit, alors, le CE se confondait avec le syndicat. Ils ont organisé des expositions. Le centenaire de la mort de Victor Hugo, pour laquelle j'avais un peu donné la main, et d'autres dont je n'ai plus le souvenir. Ils étaient, après tout, eux aussi, des travailleurs de la mer. Quand les menaces se sont faites plus précises, des concerts de soutien ont été organisés. Je n'ai pas aimé Higelin, ivre, chancelant sur une scène improvisée dans un des ateliers. C'était la première fois que j'y entrais. Je revois un hangar immense, très haut de plafond, avec des machines-outils, des câbles, des chaînes, des rails, des poulies, un temps. Une cathédrale dédiée à l'acier. Ils avaient installé un plateau de fortune placé sur les virolles où seraient coulées les piles du pont de l'île de Ré. Higelin, saltimbanque décousu, titubant sur la plaque d'acier entre un guitariste et un harmoniciste, après Alain Lombard et l'orchestre National de Bordeaux, Aquitaine. J'avais 15 ans. Nous sommes partis avant la fin. Je n'étais pas encore capable d'apprécier. Tant pis. Mais j'ai compris. J'ai compris qu'il avait apporté généreusement son soutien. Je crois qu'ensemble, unis, les gars du chantier ont fait ce qu'ils ont pu. On a bien aperçu quelques lueurs. Cousteau, ah, Cousteau, il rêvait d'un nouveau navire pour remplacer sa Calypso vieillissante. Ce serait un bâtiment révolutionnaire, dépourvu de toute voile, mais avec un mât central orientable. La turbovoile, l'Alcyone, s'était décidé, serait construit par le chantier. Lors d'une soirée à la Maison de la Culture, Cousteau était là en personne pour présenter le navire. On devait tous y aller. Mamie avait réuni toute la famille un mercredi et, le soir, j'ai pu me faire dédicacer le Monde du Silence. Oh, c'était une édition bon marché, un cadeau de Noël d'une tante qui n'en faisait guère. Mamie était heureuse de nous avoir tous, mais ça n'a rien empêché. Les chantiers ont fermé. Était-ce une lueur d'espoir ou seulement de la poudre aux yeux? Il n'existe plus vraiment, les chantiers. De repreneurs en repreneurs, ils ont perdu leur unité. Dans le quartier du Gabu, il n'y a même plus, ou presque, de ship handlers, ces commerces de fournitures pour les bateaux et les marins. Un de mes oncles a troqué son bleu pour la blouse blanche de l'employé de pharmacie. Il ne joue plus au rugby, mais au volley. Mamie, elle dit qu'il y a du progrès puisqu'il ne perd plus que par 3-0. Un autre alterne les contrats à durée déterminée sur les lieux mêmes où ils auraient souhaité faire carrière. Même la Calypso a coulé. Et s'ils l'ont renflouée et qu'elle a longtemps mouillé au musée maritime, ce n'est même pas une consolation. On l'a laissé rouiller faute d'argent et l'épave dangereuse a été prudemment remorquée ailleurs. Piètre hommage. Quelques années après la fermeture, je me souviens d'avoir rejoint mon père, qui n'était pas encore en retraite, à la gare de la Palisse. Non loin de la base sous-marine, j'ai lu sur le mur d'un transformateur électrique ces mots à la peinture rouge. La navale vivra. Signe d'un lock-out brisé, d'une grève abandonnée, d'un combat perdu, on a sûrement dû le repeindre ou on aura oublié. Plus tard, j'ai un peu connu le Nord. On m'a parlé des ch'timis. J'ai entendu leurs histoires de trous, de coques et de genièvres. On m'a parlé de fierté, de gueule noire. J'ai revu les bleus, le kill de rouge, les gamelles et le bus des ouvriers du matin. Alors, découvrant la mine, j'ai un peu mieux compris la navale. Dans l'ancienne chambre de mon oncle là-bas, dans l'appartement de papy et mamie, il y a toujours accroché au mur la photo de l'équipe des chantiers. Dans le métro ligne 9 qui me conduisait au travail, je me souviens avoir vu sur la caisse une petite plaque de métal rivetée où était gravée cette inscription « Brissonneau et Lotz, Étré, Charente-Maritime ». Et j'ai entendu le bruit de la machine à coudre qui ravaudait. J'avais 3 oncles qui travaillaient au chantier. J'ai dit ce qu'ils sont devenus, sauf un. Il est mort d'un cancer. C'est ce qu'ont dit les médecins. Alors, il faut les croire. Le danger, le bruit, la chaleur, l'amiante qui fait comme de la neige. le labeur d'un chaudronnier et le fait d'être trop vieux pour retrouver une place dans la vie active n'y sont certainement pour rien. Mais ces lignes sont pour lui. Je reprends ce soir le fil de ce texte. Nous sommes quelque part au large de 2020. L'appartement de mes grands-parents a été rendu au HLM en 2016, après 60 années d'occupation. La photographie de l'équipe a été décrochée, les rares meubles vendus avec la mention « vintage » et les bleus rapiécés sont à la retraite. Comme l'office a eu la bonne idée de rénover l'extérieur du bâtiment, passer au prêt aujourd'hui m'est indifférent. Il me reste à écrire que, de mes trois mousquetaires, oui, l'enfance se permet tout, même de voir des oncles plus grands, plus forts qu'ils ne peuvent l'être. Il n'en reste plus qu'un, qui cultive l'art d'être grand-père. Un second s'en est allé. Là encore, la médecine ne s'est pas prononcée en faveur d'une maladie professionnelle et je n'ai rien à en dire. Mais je ne puis oublier qu'ils me racontaient que, lors de moments de creux dans leur journée de travail, ils organisaient des batailles de boules de neige. Ouais. Comme il ne neige guère à La Rochelle, ils utilisaient l'amiante de flocage. Il était le plus jeune des trois, mon aîné de 16 ans. Voilà. Ces lignes sont donc pour eux.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir. De guerre, battu par les vagues, rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je acier rouge avec mes mains d'or. Travailler au corps, travailler au corps, acier rouge et mains d'or. Travailler au corps, travailler au corps, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler au corps, travailler au corps, acier rouge et main d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Les mains d'or avec la voix sublime de Bernard Lavillier, une chanson emblématique qui a accompagné bien des luttes depuis sa sortie sur l'album Arrêt sur image en 2001. Une chanson qui aurait aussi, sans conteste, trouvé sa place sur cette même scène des chantiers à La Rochelle, aux côtés de Jacques Higelin en cette année 1986, une année marquée par les luttes syndicales et par ce slogan « Déterminé mais non dénué d'espoir », reprise ici par Manuel Bonneau comme titre de sa nouvelle « La Navale vivra ». La plume est à vous, c'est terminé pour ce soir. Un immense merci à l'ami Frédéric Guillon aux manettes qui a œuvré avec talent à la réalisation de cette émission. Passez une excellente semaine à l'écoute de Bretagne 5. Le confinement, c'est fini, mais pas la pandémie. Alors continuez à prendre bien soin de vous et des autres pour que l'on se retrouve sereinement et en excellente forme dimanche prochain à la même heure sur cette même antenne. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.